Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
C'est la deuxième heure de BFM Patrimoine, puisque comme chaque matin, on vous accueille et on vous accompagne jusqu'à midi. Et tout de suite, on file sur les marchés pour prendre le pouls de cette séance un petit peu délicate. Il faut dire, Thibaut François, on vous rejoint chez Fastia Capital, que en Europe, on regarde forcément ce qui s'est passé en Asie. Et du coup, il faut avoir un peu du cœur pour acheter ce matin.
Oui, ce matin, c'est pas facile. Bonjour Cédric, c'est pas facile. On a une pression vendeuse sur le CAC. On baisse quand même de 1% sur le CAC 40. Effectivement, la partie chinoise pèse sur l'indice CAC 40. On a toujours cette politique de zéro Covid qui existe en Chine. Il y a eu des rumeurs comme quoi ça pouvait s'arrêter. Effectivement, on voit que c'est toujours assez strict du côté de la Chine. D'ailleurs, les Chinois commencent à manifester contre cette politique. Donc tout ça amène sûrement à d'autres confinements, on va dire, pour calmer la population. Et forcément, ça donne un petit peu un manque de visibilité sur l'ensemble de l'activité chinoise. Donc le marché se retrouve un petit peu vendu ce matin. Les dernières semaines ont plutôt été positives pour les différents indices. On a bien remonté sur l'indice CAC 40 et sur les indices mondiaux. Donc là, il y a des prises de bénéfices qui sont assez nettes, avec une baisse d'un peu plus de 1% sur le CAC 40. Et on retrouve en bas du palmarès des valeurs très liées, on va dire, au zéro Covid en Asie. Airbus notamment, on baisse quand même de 3,5% ce matin. On a Total aussi qui perd un peu plus de 2%. Le pétrole a nettement baissé ces derniers jours et ces dernières semaines. On est autour de $81 sur le Brent, ce qui est en nette baisse par rapport à ces dernières semaines, ces derniers mois. Et on a aussi toutes les valeurs tech et les valeurs liées au luxe qui perdent entre 1 et 2% depuis le début de la journée. Donc l'indice a vraiment pris une direction claire avec des prises de bénéfices. On retombe en dessous des 6650 sur l'indice CAC 40. Ça se fait avec un petit peu de volume, en plus un peu plus de 500 millions d'euros d'échangés sur le CAC 40. On retrouve, on va dire, des volumes un petit peu normaux après une semaine Thanksgiving aux États-Unis. Et on attend maintenant la préouverture sur la partie américaine pour voir si l'indice CAC 40 ne peut pas s'enfoncer un petit peu plus dans les prochaines heures. Mais en tout cas, début de séance très difficile sur le CAC 40.
Voilà le contexte dans lequel on évolue ce matin. Après, il y a quelques valeurs qui font l'objet d'actualité et qui du coup se distinguent soit parce qu'elles bougent pas mal, soit parce qu'elles ne bougent pas puisqu'elles sont suspendues. C'est le cas d'UFF.
Oui, exactement. Alors ça faisait partie des scénarios qui étaient envisagés sur le dossier UFF. Là, ça a été annoncé ce matin. C'est le groupe Abeille qui a déjà 75% du groupe UFF qui lance une OPA qui sera suivie d'un retrait obligatoire s'ils atteignent les 90% du capital. Ça se fait à 21 € par action au côté 13,90, donc ça fait une prime d'un peu plus de 50% sur les derniers cours cotés, ce qui est plutôt pas mal, surtout qu'ils ont versé un dividende exceptionnel de 3 €. Il y a quelques mois, donc tout ça c'est plutôt bien. Pourquoi c'était plus ou moins attendu? Déjà parce que Abeille avait plus de 75% du capital et aussi parce que la valorisation commençait à devenir juste ridicule. On est sur un dossier sur lequel il y a moins de cinq fois les EBITDA pour l'année 2022, alors que le groupe a beaucoup de cash et des actifs immobiliers qui sont cachés, qui sont très mal valorisés dans l'entreprise. Et ça a distribué 3 € de dividendes il y a quelques semaines, donc ça donne quand même des rendements au-delà de 20% sur un dossier comme ça. Sachant que ces dossiers-là, si ça ne cotait pas, en termes de private equity, c'est plutôt des opérations qui se payent entre 14 et 15 fois les EBITDA hors marché. Donc, vous voyez, sur un des leaders du secteur, c'est quand même des décotes qui sont exceptionnelles. Donc maintenant, 21 €, c'est plutôt bien par rapport au dernier cours coté. Ça valorise un petit peu mieux l'entreprise, mais on s'aperçoit que la partie les petites et moyennes valeurs sur les différents indices européens sont extrêmement mal valorisées parce qu'elles n'ont pas beaucoup rebondi ou pas du tout rebondi depuis 2018. Et donc, on se retrouve avec des, des décotes extrêmement importantes par rapport aux, on va dire, aux valeurs du CAC 40, qui elles-mêmes sont déjà décotées par rapport aux investissements du private equity. Donc ça met en lumière, on va dire, une décote extrêmement importante de la plupart des entreprises françaises, et notamment des petites valeurs. Et donc voilà, il y a une rectification qui se fait en one shot sur une opération financière, et donc ça donne des primes de 50% sur ce genre d'opération. Voilà. Donc on verra ce que ça donne dans les prochains jours, mais on risque d'avoir une cotation assez rapidement sur 21 € sur le groupe UFS.
Bon, et puis rapidement un mot de Casino.
Ouais, bah Casino, en fait, on va dire presque comme d'habitude depuis des mois, Casino annonce une cession d'actifs. Là, c'est 10% du brésilien Assei qui va être vendu sur le marché. C'est à peu près 750 millions de dollars qui vont être récupérés pour le groupe Casino. Encore une vente d'actifs pour rembourser de la dette qui est extrêmement importante et sur laquelle ils ont du mal à générer suffisamment de cash flow pour pouvoir rembourser la dette de façon opérationnelle. Donc encore une vente d'actifs pour rembourser de la dette. Et ça continue. Ça ne rassure toujours pas le marché. Mais en tout cas, on va dire que c'est une bouée d'oxygène sur le groupe Casino à court terme.
Merci beaucoup Thibaut François depuis Fastea Capital. Tout de suite, Nathan Cocampo pour l'Info Éco.
BFM Business, l'Info Éco.
À la une, Pékin ira au bout de son combat contre le Covid-19 et ce sera une réussite, déclaration des autorités chinoises, alors que des manifestations historiques ont lieu dans le pays pour critiquer la politique zéro Covid. À Pékin, Shanghai, Wuhan, de nombreuses vidéos sur Internet ont déjoué la censure et témoignent d'une mobilisation d'ampleur inhabituelle. La BBC indique qu'un de ses journalistes a été arrêté et frappé par la police alors qu'il couvrait une manifestation. Les exportations françaises atteignent 439 milliards d'euros sur les trois premier trimestre, en hausse de 20%. Le nombre d'exportateurs atteint son niveau le plus élevé depuis 20 ans. Des performances toutefois plombées par l'inflation et une forte augmentation des importations. On s'attend cette année à un déficit commercial record. Europol annonce le démantèlement d'un super cartel de la cocaïne. 49 suspects dans divers pays ont été arrêtés, dont 6 cibles de grande valeur à Dubaï, précise Europol. Ce cartel contrôlait environ un tiers du commerce de la cocaïne en Europe. 30 tonnes ont été saisies. Un RER dans 10 métropoles françaises. C'est le projet d'Emmanuel Macron sur les 10 prochaines années pour tenir les engagements climatiques et diminuer le trafic routier. Lille, Bordeaux, Lyon, une quinzaine de projets sont en développement selon l'Élysée. La Première ministre supervisera ces grands travaux. Dans l'actualité des entreprises, Casino annonce la cession d'une partie de sa participation dans la chaîne de supermarchés brésilienne Assaí. Une cession qui représente 140 millions d'actions, soit 10,4% du capital d'Assaí. De quoi permettre au groupe d'accélérer son désendettement. Et puis le courtier en assurance April s'apprête à passer sous pavillon américain. Le fonds KKR le rachète à un autre fonds, CVC, pour 2,4 milliards d'euros selon les échos. Un prix deux fois supérieur à celui qu'avait payé CVC il y a seulement 3 ans. Et vos rendez-vous du jour sur BFM Business en cette période de Coupe du Monde. Un agenda sport ce lundi avec la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra. Ce soir à 19h15 et Vikash Dorasso, ancien footballeur international, dans la grande interview d'Edwige Chevrillon. C'est ce soir à 19h30.
Merci beaucoup Nathan. Nathan Cocampo, qu'on retrouve donc chaque heure pour suivre cette actualité économique. Et nous, on ouvre regard croisé.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Damien Diric et Louis de Montalembert sont autour de la table. Bonjour messieurs.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous. Louis pour Pléiade AM, Damien pour Exane AM. D'abord, les bourses européennes. Alors, on va faire peut-être exception de ce matin où il y a cet impact chinois. Mais bon, quand on regarde sur les quelques semaines écoulées, on a l'impression qu'elles ont décidé de croire que les craintes fortes qui pesaient sur elles, les bourses, étaient en train de se dissiper. Alors d'abord, vous, si je vous pose la question, quelles sont les craintes que l'on peut encore identifier, Louis?
Alors, sur l'Europe, il y en a encore beaucoup, hélas, puisqu'on a une guerre qui est à nos portes, qui se poursuit, qui pèse sur le prix des matières premières, même si on voit que ça n'est pas le seul élément de formation des prix des matières premières. Et par conséquent, un pic d'inflation que l'on n'a pas forcément encore passé en Europe. Et donc, une politique restrictive de la Banque Centrale Européenne qui ne s'est pas encore fait sentir, puisqu'on n'est pas encore en en restriction monétaire. Donc il y a un moment où on va rentrer en restriction monétaire. Et donc le poids de l'inflation qui limite la capacité des entreprises à forcément répercuter les prix à leur clientèle fait que le risque finalement c'est la profitabilité des entreprises en 2023 qui peut être mise à mal par une récession qui paraît assez inéluctable aujourd'hui.
Ça c'est pour l'Europe.
Ça c'est pour l'Europe.
Est-ce qu'il y a d'autres craintes fortes qui selon vous pèsent ou seraient susceptibles de peser sur les marchés?
Je pense que la Chine, ce qui s'y passe aujourd'hui et la continuité de la politique zéro Covid, moi c'est le risque principal que j'avais énoncé en début 2022 dans notre rapport annuel, c'était effectivement la politique zéro Covid. On voit le poids que ça a induit sur l'économie chinoise avec des mesures qui sont incroyablement draconiennes. J'ai rencontré une shanghaïenne il y a un mois qui m'a raconté la classe moyenne supérieure, donc qui m'a raconté son confinement, c'était dantesque, et surtout l'idée que on ne peut même pas aller dans les magasins parce qu'on risque d'être confiné
dans le magasin,
dans un magasin ou dans des bureaux, etc. Donc on voit le comme ça paralyse l'activité économique chinoise et que la Chine représente un des poumons essentiels de la croissance mondiale et de l'Europe, notamment avec l'Europe, avec l'Allemagne qui est le principal moteur de la croissance et qui est très impliqué en Chine. Donc on voit que la Chine pèse certainement sur le potentiel européen.
Même question, est-ce qu'il y a des craintes qui vous paraissent un peu extrêmes? Et de savoir, et après on verra si vous pensez qu'elle se dissipe ou pas. Mais enfin, en fait, voilà. Quelles sont les craintes que vous avez identifiées?
D'abord, je pense que pour comprendre où on en est, il faut voir d'où on vient. Et donc, effectivement, on a eu un rebond très très fort des marchés. Alors, ça dépend les marchés, mais on va dire entre 15 et 20% selon, depuis septembre à peu près, où en fait, on a grimpé l'échelle des peurs. Les Anglais adorent dire to climb the wall of worry. Et en fait, il y avait un paquet de choses sur ce mur de peur, et on les a pas toutes franchies, effectivement, parce qu'évidemment il en reste, mais on en a franchi une partie. Alors la question c'est, est-ce qu'on a surjoué des choses en se disant en fait c'est bon, on peut les retirer du mur de la peur, elles ont disparu. Donc pour moi, ce qui a beaucoup aidé les marchés, c'est le fait qu'on a eu des bons résultats du troisième trimestre, très au-dessus des attentes, en tout cas dans ma sphère industrielle, c'était vraiment assez surprenant, avec très peu de warning et des commandes extrêmement bonnes sur beaucoup de sociétés, enfin sur l'essentiel des sociétés, des commandes très très fortes. Donc ça, on s'est dit, bon, le troisième trimestre, c'est pas encore le trimestre où on a des warnings. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on s'était fait très peur dans l'été avec les sujets d'énergie, vous l'avez évoqué. Et puis on a vu que, même si c'est encore évidemment beaucoup trop haut et que ça va avoir des impacts en 2023, encore vu les niveaux de prix d'énergie qu'on a, si on regarde 12 mois sur 12 mois, évidemment, quand on a touché 800 euros le mégawattheure sur le prix de l'électricité en Allemagne et qu'on est revenu à 300, ça fait quand même un petit ouf de soulagement. Quand on a le prix du gaz qui a rebaissé aussi très très fort, puisque les stockages sont pleins, qu'on a pour le moment, on a eu un début d'hiver, là on y rentre, ça y est, cette semaine si j'ai bien compris.
Fait la météo aussi.
En tout cas, ce stress a été détendu. Et puis, dernière chose, il y a eu un paquet de petits éléments politiques qui ne s'étaient pas forcément bien passés ou sur lesquels le marché se posait plein de questions. L'Italie, avec l'arrivée de Meloni, finalement, le spread italien qui était monté à 250 bips contre le Bund, il a rebaissé, on est en dessous de 200. On a eu le sujet britannique, où on s'est fait très peur aussi, avec des taux qui se sont envolés, et puis un demi-tour complet, un 180 complet du gouvernement britannique sur ses engagements budgétaires. Et puis, on peut finir avec ce sujet de Chine, où effectivement, on avait le Covid et la question de est-ce qu'ils vont relâcher les choses avec leur congrès.
Bien sûr.
Et finalement, au cours du congrès, on s'est rendu compte que Xi Jinping tenait les choses très fortement, qu'il ne fallait pas attendre quoi que ce soit. Et puis finalement, dans les semaines qui ont suivi, on a eu des news qui étaient assez plutôt relâchantes, en fait. Et c'est là où je pense qu'on est en plein problème aujourd'hui, c'est que les Chinois ont fait du en même temps, et qu'ils ont donné des indications à leurs gouvernements locaux en disant ce que vous faites, c'est vous me permettez un relâchement, parce qu'il faut arrêter sur l'économie, il faut relâcher un peu, mais en même temps, je ne veux pas avoir de Covid. Donc la chose qui est absolument
Ouais, bien sûr.
Compliqué à faire. Et là, on est en plein dedans. Et alors, on est dans le sujet des protestations.
Et est-ce que, du coup, ces points saillants que vous pointez du doigt, est-ce qu'ils peuvent se dissiper et donc les marchés, finalement, poursuivent leur forme d'engouement ou pas?
C'est le problème, c'est qu'on est dans l'inconnu et le marché n'aime pas l'inconnu. C'est-à-dire que...
Il a quand même repris 20% en un mois, quoi.
Mais là, à partir de là où on en est, effectivement, il y a des inconnus et il y a effectivement des éléments qui pourraient dire ça va se dissiper et d'autres qui pourraient dire ça ne va pas se dissiper. Le point saillant, je trouve, et je vous rejoins, c'est la santé des entreprises. Nous, on le voit sur la croissance des entreprises qu'on suit. On a eu un fort rebond en 2021. On a été étonné de voir une croissance encore supérieure au premier semestre 2022. Et on nous annonçait au troisième trimestre déjà un ralentissement fort économique. Et énormément des entreprises que l'on suit ont encore accéléré leur croissance. Et ça, c'est vraiment étonnant. Alors, il y a peut-être un facteur inflation aussi dans les croissances de chiffre d'affaires. Mais je trouve que ça rejoint effectivement les chiffres des exportations. On s'aperçoit que les entreprises sont en très bonne santé. Et donc, c'est ça qui soutient les marchés. Mais quant aux inconnus, ce qui se dissipe, c'est l'énergie est plus bas. Et effectivement, ce qui se passe en Chine est plutôt propice à faire... tomber ces coûts-là, et puis on voit que tous les coûts qui avaient explosé au moment du Covid, enfin au moment de la réouverture, se sont dissipés, notamment sur tout ce qui est fret, matières premières et énergie. Mais néanmoins, on reste sur une inconnue forte sur comment va se dérouler la suite de l'intervention russe en Ukraine, et à quel moment on va véritablement pouvoir respirer. Puis on n'a pas de politique énergétique européenne qui fait que aujourd'hui, même si l'on pense qu'on va passer cet hiver à peu près sans trop de dommages, aujourd'hui on ne sait pas encore comment est-ce qu'on va passer l'hiver 2023. C'est-à-dire qu'il y a un pan entier de l'économie européenne est crucial, même un pilier qui est l'énergie. L'énergie, c'est à la base de l'industrie. Et aujourd'hui, on a beaucoup de boîtes européennes qui se posent la question de construire États-Unis plutôt qu'en Europe. Donc ça reste une inconnue qui est de taille. Mais effectivement, on s'aperçoit aussi qu'il y a des secteurs entiers qui ont été abandonnés sur les bourses européennes, et je pense beaucoup à l'industrie, qui finalement s'en sortent pas mal. Et qui pourraient continuer à tirer leur épingle du jeu.
Est-ce que les craintes, pareil, est-ce que ça peut se dissiper et le marché poursuivre? Je ne sais pas, est-ce que le CAC 40 peut finir dans le vert? Est-ce que ces 20% en deux mois, c'est la mise en place d'un bull market? Enfin voilà, il y a plein d'espoir qu'on pourrait avoir en voyant la performance récente du CAC, par exemple.
Il y a une chose que je n'ai pas évoquée en faisant ma liste des craintes, qui était aussi la politique monétaire américaine. Et l'espoir... enfin arrivé pour certains, du pivot de la Fed. Et donc de dire, ça y est, on arrive au bout de cette remontée des taux américains. Et donc le chiffre d'inflation un peu meilleur que prévu publié en novembre pour le mois d'octobre, a été encore un coup en plus positif en disant, bon, ça y est...
Et cette semaine, on attend l'emploi qui...
Et cette semaine, il y a énormément de chiffres importants. Ouais. Sur ce sujet, puisqu'on a les initial claims, bon ça c'est tous les jeudis, mais qui avaient commencé à monter, pour dans le sens de la politique de la Fed, hein, bien sûr, on n'est pas heureux de voir des gens au chômage, bien sûr, mais les initial claims qui remontent, ça c'est une chose qu'il faut qu'on suive. Deux, vous l'avez dit, il y a les chiffres du chômage du mois d'octobre qui vont tomber, et surtout, une chose que regarde beaucoup la Fed, le JOLT, excusez-moi de l'utilisation, c'est donc un chiffre qui permet de mesurer les offres d'emploi disponibles. Et ce chiffre avait, là aussi, malheureusement, pour la politique de la Fed, surpris à la hausse. Donc, on va voir si cette fois-ci, on a les éléments qui permettent au marché
de l'emploi,
je ne me suis pas trompé,
se détend un peu, entre guillemets.
Exactement. Est-ce que la Fed va enfin voir les choses qui vont dans le bon sens pour confirmer que, quelque part, en mars 2023, on a fini de monter les taux et... comme le dit la courbe des taux aujourd'hui, on arrivera quelque part en 2023 à les rebaisser. Ça, c'est une première chose. Le sujet, je suis complètement d'accord sur 2023, notre sujet à nous. En fait, quand on regarde les marchés cette année, quand on a eu le trou du mois de juillet, c'est très simple. C'est le marché a essayé de projeter ce qu'il voyait sur les prix des matières et sur le ralentissement économique sur 2023. Et donc, on a évidemment pas loin de pricer une belle récession en 2023 sur les chiffres que vous voyez sur les indices en juillet. Donc, on est beaucoup plus haut que ça aujourd'hui. Mm-hmm. Et donc, toute la question aujourd'hui, c'est de se dire, en fait, la récession qui est devant nous, parce qu'elle est malheureusement à peu près sûre, vous avez le PMI, manufacturier et services en zone euro et dans tous les pays de la zone euro qui est dans le rouge, enfin en dessous de 50. Le PMI américain, alors je préfère l'ISM, très honnêtement, il sera publié cette semaine, mais il est a priori attendu en dessous de 50. Et vous avez tous les indices PMI chinois, mais ça fait aussi un moment, qui sont en dessous de 50. Donc en gros, les trois grosses économies sont en ralentissement très net. Donc la grosse question pour le marché, c'est de se dire jusqu'où, en fait, de combien il faut qu'on révise les bénéfices par action de 2023, ce que pour le moment, il a très peu fait. Parce qu'il a été soutenu par un chiffre 2022 qui était surprenamment bon. Et alors, pour, j'y réponds complètement, sur le sujet, je pense qu'un truc qui peut vous mettre le marché en effervescence, comme on avait eu, vous souvenez, cette fameuse news de Pfizer.
Comme le vaccin.
Comme le vaccin, bah, c'est un moment de paix entre les Ukrainiens et les Russes. Bon, vous avez vu que les Américains et les Russes se sont rencontrés en Turquie récemment.
Est-ce que malgré tout, il y a encore une chance pour qu'on évite une récession en 2023, Louis ?
Je pense qu'en Europe, non, c'est pas envisageable de l'imaginer. Aux États-Unis, c'est plus délicat parce que justement, on voit que la politique monétaire américaine a du mal à vraiment cranter. Et probablement parce que il y a une épargne, une surépargne des Américains qui s'est constituée au moment du Covid, qui n'est pas épuisée. Donc ça veut dire que la consommation continue à être extrêmement forte. Et donc c'est incertain aujourd'hui. Alors, de ce que j'en lis, il y a plus de stratégistes ou d'économistes qui misent sur une récession, mais probablement une récession légère aux États-Unis par rapport à ce qui peut se passer en Europe. En Europe, les jeux ne sont pas faits sur la profondeur de la récession et je pense que ça va beaucoup dépendre effectivement de la politique énergétique ou de la situation énergétique de l'Europe. Mais la récession est actée. Aux États-Unis, c'est encore plus difficile à voir puisqu'on voit que le marché de l'emploi fait de la résistance. Après, on peut avoir des mauvaises surprises du côté de l'immobilier. Hein, quand on a des taux qui montent, aujourd'hui, les mortgages sont montés à 7%. Vous avez quand même un bout des mortgages américains qui sont en taux variable. Sur la construction de nouveaux logements, la vente de nouveaux logements, c'est évident que c'est la partie de la politique monétaire qui va peser le plus lourdement sur l'économie américaine. Et ça peut effectivement causer un vrai problème à l'économie américaine. Peut-être pas aller jusqu'au risque systémique, mais on voit que là, pour le coup, ça peut mettre en risque le système financier si c'est trop brutal. Et on voit que la hausse des taux a été tellement brutale sur les mortgages qu'on pourrait avoir une inquiétude autour de l'exposition des institutions financières sur l'immobilier américain.
Je suis assez d'accord sur
on peut éviter la récession ?
Non, en Europe, pour moi, c'est non. Je suis pas économiste, encore une fois, mais tous les éléments vont dans le sens de au moins quelques trimestres devant nous qui seront dans le rouge. Alors là où dépendront la profondeur, c'est la réponse. Vous voyez qu'il y a plein de boucliers qui ont été mis en place dans les différents pays. Et on discutera peut-être celui de l'Allemagne qui fait discuter beaucoup dans les autres chancelleries. Si on arrive à avoir assez de boucliers, malgré ça, il me semble quand même qu'on est mal parti. Je suis complètement d'accord sur les US, sur le fait que la Fed, en fait, elle est en train de réussir totalement ce qu'elle voulait. C'est-à-dire que le refroidissement, il n'y avait pas de bulle immobilière, mais du marché immobilier américain, il est en route, très clairement. Et en fait, si vous voulez, ce qu'ils veulent, eux, et vous l'avez dit, on est passé de 3 à 7 sur le mortgage américain, donc, et regardez les indicateurs avancés du marché immobilier aux États-Unis, se sont effondrés. Vous avez un indice qui s'appelle le NAHB, qui est totalement effondré. Il a perdu plus de 65% depuis ses points hauts. Ils sont pas très loin derrière nous. Et on est en dessous des niveaux qu'on avait en pleine crise du Covid. Donc c'est quelque chose qui est maintenant engagé. Les chiffres dans l'emploi, dans la construction aux États-Unis ont été étonnamment très bons, malgré toutes ces annonces qui font que les mises en chantier vont baisser. Mmh. Donc la Fed est en train d'attraper ça. Et je pense ça va commencer à se voir enfin. Donc est-ce que ça fait une récession ? Potentiellement, mais pas tout de suite. C'est tout le problème de la Fed, c'est que elle a ce problème, c'est qu'elle veut absolument ralentir les choses, mais pas mettre l'économie en récession profonde.
Voilà donc les grands thèmes qui agitent un peu ces marchés. Et c'est vrai qu'on a un peu l'impression, quand on voit les 20% repris en quelques semaines, dira-t-on, qu'ils ont envie de les voir se dissiper, ces craintes. Deux petites questions pour terminer. Il nous reste deux minutes, donc il faudrait être assez bref. Paris qui ravit à Londres la place de première place boursière. On parle de capitalisation. Est-ce que ça vous inspire un commentaire, Louis ?
Oh, qui reste modeste. Je pense qu'on a une industrie de l'asset management qui est assez vivante, mais on est dans une situation aujourd'hui où on voit qu'il y a très peu d'introductions en bourse. Donc, je n'ai pas un franc cocorico. Je pense que c'est la baisse de la livre qui induit cette perte de la place des Britanniques.
Bon. Damien. Un rugbyman qui gagne un match contre l'Angleterre ne peut jamais être mécontent. Mais non, je pense qu'après, il faut bien voir ce que c'est que la place britannique. Elle est quand même très fortement portée. Regarde l'indice FTSE, finalement, en livre. Il est pas si mal depuis le début de l'année, mais c'est lié à ce qu'il constitue. Et ce qu'il constitue est finalement très peu britannique. Donc, on va dire, on est content, évidemment, que la France soit devant. Mais il faut faire attention parce que, encore une fois, on mélange des choses qui ne sont pas totalement comparables. Hein. Regardez le poids de la mine, des miniers, dans l'indice FTSE anglais, et allez voir combien il y a de mines encore ouvertes en Angleterre, vous verrez qu'il y a un problème.
Et puis les cryptos, qui vivent une nouvelle crise majeure, je ne parle pas que des cotations. Hein. Est-ce que vous avez un regard là-dessus ? Est-ce que ça vous amuse ? Est-ce que ça vous indiffère ? Est-ce que ça vous inquiète ?
Je pense que la chose qui est rassurante, c'est que malgré ce crash abyssal, finalement, on a peu d'acteurs financiers majeurs qui ont été touchés. Ça restait à la marge, même si c'était des montants importants, à la marge du système financier international. Donc, je regarde ça à grande distance.
Oui, moi, ce qui me faisait le plus peur, c'est ça. C'était le risque systémique.
C'est de découvrir qu'il y en a un qui avait les doigts dans la confiture.
Qui en avait mis trop, ou en tout cas sur son propre bilan, etc. Ça, c'était le danger. Après, que les gens aient vu ça comme un asset et que cet asset perde de la valeur, j'allais dire, c'est presque comme tous les assets. Après, il faut bien se rendre compte que c'est un asset, hein, donc c'est un actif. C'est, enfin, de mon point de vue, on peut discuter, mais le nom de monnaie est compliqué.
C'est pour ça que je vous ai parlé des cryptos.
Pour moi. Et à la fin de la journée, ce que vous regardez, c'est que vous avez un actif et qui n'est pas anti-corrélé aux autres. C'est ça le sujet. C'est que quand les marchés tombent fortement, vous n'avez pas l'effet or qu'on aurait pu imaginer. C'est que les crypto-actifs baissent avec les marchés actions.
Voilà quelques idées à avoir en tête sur ces marchés et sur leurs corollaires, parfois un petit peu anecdotiques. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce regard croisé. Louis de Montalembert pour Pléiade AM et Damien Dierix pour Exane AM. Bon retour à tous les deux. Nous, dans un instant, on regarde ce qui se passe sur ce marché techniquement avec André Atouigny. Puis vous n'oubliez pas non plus les podcasts, les replays qui vous attendent sur le site ou sur nos plateformes partenaires et qui vous permettent de nous retrouver à tout moment.
BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
11h passé de 31 minutes, on file sur le marché, rejoindre André Atouigny qui depuis Saxo Bank surveille cette séance ce matin. André, on vous retrouve avec une baisse qui s'est confirmée, qui s'est même parfois amplifiée, même si on a l'impression qu'on a mis un petit peu les protections sur les 6640. Comment est-ce que vous voyez les choses ?
Oui, pour le moment, le point bas de la séance est 6640. Depuis, on tente de se redresser un petit peu sur le CAC. Sur le CAC, on est autour des 6660 au moment où on se parle. On perd 0,80%. Donc, c'est relativement stable par rapport à il y a une heure. Globalement, on a une tendance qui est assez lourde ce matin. On a vu pourtant une bonne semaine. La performance hebdomadaire a été encore positive la semaine dernière avec des marchés portés par des bonnes nouvelles. On avait eu des bonnes informations, notamment du côté de la Fed, après la publication des minutes de la Fed. On a des ventes en ligne record aussi pour le Black Friday. Donc, on sentait qu'il y avait quand même de quoi commencer la semaine de manière encore une fois positive. Mais c'est vrai qu'on est un petit peu perturbé ce matin par les événements en Chine, ces manifestations contre la politique zéro Covid et surtout les interrogations derrière autour de la situation économique, des conséquences économiques. Donc, on voit tous les actifs à risque qui sont un petit peu dans le dur ce matin. On voit le pétrole qui chute assez lourdement. On a des indices qui sont pareils sur la défensive. Et à l'inverse, on a par exemple les obligations qui montent. On voit d'ailleurs le rendement aux États-Unis, le 10 ans américain, autour des 3,66%. Donc on a aussi une baisse des rendements liée à la progression justement de ce marché obligataire. Et voilà, on a pour le moment une incertitude autour de la situation économique en Chine, pas mal d'interrogations, et c'est le prétexte, on va dire, ça peut aussi être un prétexte utilisé par les marchés peut-être pour reprendre un petit peu son souffle. On avait eu une progression quasiment ininterrompue depuis maintenant plusieurs semaines sur les marchés, et c'est vrai que ce catalyseur, c'est une raison qui peut justifier aujourd'hui cette volonté peut-être de reprendre son souffle avant une semaine, il faut le rappeler, qui va être extrêmement chargée en indicateurs macroéconomiques, hein, beaucoup d'indicateurs, l'ISM manufacturier aux États-Unis notamment, mais on aura surtout le rapport sur l'emploi en fin de semaine. On aura aussi plusieurs intervenants des banques centrales, et notamment le président de banque centrale, Christine Lagarde, cet après-midi. On aura James Bullard demain, et on aura surtout Jérôme Powell mercredi, qui vont s'exprimer. Et donc là aussi, dans un contexte où on parle beaucoup de politique monétaire, et notamment du côté de la Fed, après aussi la publication des minutes de la semaine dernière, et l'espoir du marché d'une politique monétaire moins agressive, d'une hausse de taux un petit peu moins forte sur les prochaines réunions. C'est une des raisons qui justifie qu'on ait eu un marché porteur depuis plusieurs semaines. Donc c'est vrai que toutes ces interventions sont scrutées, et notamment la combinaison entre intervention de banquiers centraux et indicateurs macroéconomiques, ça promet, on va dire, une semaine potentiellement un petit peu explosive, ou en tout cas très chargée, avec peut-être un retour de la volatilité. Donc du coup, il faudra être assez attentif. Mais c'est vrai que ce matin, en tout cas, voilà, la Chine peut être un prétexte justement pour lever un petit peu le pied, avoir un petit peu moins de risques avant justement ces différents événements de la semaine qui seront très très importants et qu'il faudra bien évidemment surveiller. Pour le moment, du coup, 6640, c'est le niveau qui semble tenir. On peut avoir un glissement, on va dire, jusqu'à 6615, qui est le prochain niveau de support, hein, cette zone 6600-6615 qu'il faudra surveiller. Et pour espérer avoir une embellie, il faudrait au minimum repasser au-dessus des 6685-90. Voire au-dessus des 6007, en essayant de combler ce gap vers 6715 pour le CAC, pour complètement effacer, on va dire, la petite note négative qu'on a eue ce matin. Il n'y a pas de remise en cause totale de la tendance de fond qui est positive, hein, depuis plusieurs semaines, qui est plutôt orientée du coup à la hausse. Donc pour le moment, sur ces niveaux-là, il n'y a pas de remise en cause. Encore une fois, on peut estimer, si le mouvement ne se prolonge pas, que c'est aussi une réaction court terme, et peut-être aussi, encore une fois, une volonté de reprendre un petit peu son souffle avant une semaine chargée.
Voilà quelques idées graphiques techniques à avoir sur ce marché parisien. Andrea Tweny, qui nous accompagne chaque lundi depuis Saxo Bank pour lire graphiquement la séance du jour. Et donc, pour le moment, effectivement, on reste assez nettement dans le rouge, puisqu'on perd 0,79% sur le CAC, 6659 points.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Frédéric Lorenzini pour le groupe FICAD est en ligne avec nous. Bonjour Frédéric.
Bonjour Cédric.
On vous attrape en pleine nuit, vous êtes...
Ouais, je suis un peu en fin de nuit à New York, il est 5h30, bon. On va bientôt démarrer.
On profite de votre présence à New York pour parler marché américain, est-il temps d'y revenir Frédéric? Qu'est-ce qui vous rend optimiste, enfin si vous l'êtes en tout cas?
Oui, vous savez, moi je suis raisonnablement optimiste. D'abord, il faut bien investir quelque part. Et puis, la réalité, c'est que les marchés US, les marchés américains, continuent à donner le là. On a voulu enterrer sans doute un petit peu vite les marchés américains en disant la nouvelle place forte, c'est la Chine. Et on voit bien que la Chine commence à connaître certaines difficultés des économies développées avec des mouvements d'opinion très forts. Et puis, concernant les marchés américains, on va peut-être insister, c'est peut-être l'heure du rattrapage. Parce que la réalité, Cédric, year to date, depuis le début de l'année, le CAC 40, c'est moins 7%, à peu près, l'Eurostock, c'est moins 8%, et dans le même temps, depuis le début de l'année, le S&P 500, c'est moins 15%, et le Nasdaq, c'est quasiment 4 fois le recul du CAC 40, le Nasdaq, c'est moins 28%. Donc peut-être que bientôt va sonner l'heure du rattrapage pour les marchés américains.
Quel pourrait être le signal ou le catalyseur?
Alors le signal, le catalyseur, c'est toujours la traditionnelle résilience des Américains. Et puis on assiste à un reflux de l'inflation. On a un indice IPC, la consommation qui est en repli. Bref, on commence à se dire qu'on a sans doute passé le pic d'inflation. Au mois de septembre, on était à plus de 8% d'inflation. En octobre, on était descendu en dessous de 8%. On était à 7,7%. On se dit qu'on va bientôt avoir les synthèses sur novembre. Et puis, quand on regarde en détail l'inflation aux États-Unis, ben, la réalité, c'est qu'on a une inflation forte sur l'énergie, mais qu'on a déjà une décélération sur d'autres secteurs, comme l'alimentaire. On constate une amélioration en termes d'inflation sur de nombreux secteurs. C'est le cas, par exemple, de l'automobile, tout simplement en raison d'une normalisation des chaînes d'approvisionnement. Et puis, aux États-Unis, on a eu un très bon Black Friday. Vous savez, comme aux États-Unis, les marchés sont sensibles à la finance comportementale.
Du coup, quels segments, selon vous, sont les plus à même pour prendre l'ascenseur, quoi ?
Alors, pour reprendre l'ascenseur, j'aurais tendance à dire ceux qui ont le plus souffert. Donc, faut voir la tech, hein, les valeurs de technologie. En fait, la vraie question, Cédric, c'est est-ce que vous voulez faire du market timing ou est-ce qu'on investit sur du moyen-long terme? Le market timing, on le sait, c'est un exercice extrêmement difficile, voire spéculatif, et on se prend souvent les pieds dans le tapis. Donc, sur du moyen-long terme, on est sans doute en train de revenir sur des points d'entrée.
Et si on veut y aller, quels sont les véhicules que vous nous recommandez de regarder?
Alors, sur les marchés américains, comme de manière générale sur l'ensemble des marchés pour les particuliers, on va privilégier la gestion collective plutôt que les titres vifs. Alors, les véhicules, j'en ai trois en tête. Côté fonds, je pense à un exemple, un produit qu'on a déjà évoqué, le Fidelity American Growth. Alors, ce fonds Fidelity qui joue la croissance américaine, certes, il est à moins 4% year to date depuis le début de l'année, mais ce n'est, entre guillemets, que moins 4%, sachant que sur 10 ans, c'est un fonds qui fait plus de 14% par an sur 10 ans. Ce qui est intéressant sur ce fonds, c'est qu'il est largement exposé aux valeurs technologiques, mais qu'il a su baisser la voilure sur les valeurs de la consommation cyclique et il s'est renforcé sur la consommation défensive. Et le secteur de la santé, puis un deuxième exemple de fonds, le fonds Nordea North America Small Cap. Là, on joue une classe d'actifs un peu spécifique. C'est depuis le début de l'année plus 5% et sur 10 ans, c'est 10% par an. Voilà côté fonds.
Et du côté des ETF, parce qu'on en parle souvent aussi.
Oui, côté ETF, il y a toujours cette fameuse stratégie dividende. On appelle ça la stratégie dividende parce que le dividende bon an mal an, c'est en termes de performance entre, selon les années bien sûr, entre 2 et 5%. Et dans l'univers des ETF, moi j'invite à jeter un coup d'œil sur le iShares Dow Jones US Dividend. Cet ETF US Dow Jones US Dividend, pardon, il fait plus 12% depuis le début de l'année, et surtout sur 10 ans, il fait 13% par an. Voilà des exemples concrets de véhicules auxquels on peut s'intéresser si on veut se renforcer sur les marchés américains.
Merci beaucoup Frédéric Lorenzini pour le groupe FICAD qui nous répondait donc depuis New York. Le marché parisien, pour le moment, eh bien, il baisse toujours. On est en repli de 0,76% à 6661 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Pour répondre à toutes vos questions, nos deux experts de retour, l'un en plateau, Christian Fontaine pour Le Revenu. Prêt, Christian ?
On y va.
Et Stéphane Van Uffel en ligne depuis Net, hein, Investissement. Bonjour Stéphane.
Rebonjour.
Prêt tous les deux. On commence avec vous, Christian. Laura, en bourse, le rallye de fin d'année demeure-t-il une réalité ? Ah, c'est vrai que là, quand on voit la tête du CAC depuis deux mois, on peut se dire, est-ce que tout n'est pas déjà fait ?
Alors, lorsqu'on regarde ça de façon empirique, et puis que nous montre en fait, quels sont les enseignements qu'on peut tirer des études un petit peu académiques, ben elles montrent aussi qu'il existe un rebond en fin d'année, que souvent le mois de décembre est l'un des meilleurs mois de l'année. Alors, on voit ça aussi bien lorsqu'on regarde les indices américains que plutôt les indices britanniques. Alors, je parle pas des indices français, parce que généralement, ce type d'études sont menées par des anglo-saxons. Aux États-Unis, entre 1990 et 2021, soit sur 32 années de performance boursière, le mois de décembre a été positif 25 fois. Pas mal, pas négligeable. Et sur les 25 fois, il y a eu 10 fois, donc la hausse moyenne a été de 1,6%, et 10 années, on a eu une hausse significative comprise entre 2,5 et 10%. Pour ceux que ça intéresse, généralement, les séances positives sont entre la 10e et la 17e séance de bourse, pour être très précis. Alors, Autre enseignement.
Donc on sait quand ça doit se passer.
Autre enseignement si ça se passe. De ces études, c'est que si le mois de décembre, là, à l'inverse, est mauvais, eh bien souvent, ça présage, ça annonce une année suivante, plutôt un mauvais millésime. Ça a été le cas en 56, 65, 68, 78, 80 et 82. Alors voilà un petit peu pour les études sur le Dow Jones. Sur les indices britanniques, il y a deux chercheurs de l'université de Massey en Nouvelle-Zélande qui sont à l'origine d'une étude qui s'appelle Anomalie mensuelle. Donc c'est Thierry Tsang et Ben Jacobson, et qui révèle que le mois de décembre est historiquement le meilleur, le plus performant, avec un rendement moyen de 0,81% devant janvier et avril, 0,69% et 0,49%. À l'inverse, les mois les moins bons sont sur cette période, donc c'est une période séculaire depuis une centaine d'années, sont octobre, septembre et juillet.
Voilà, poser la donne. Du coup, est-ce qu'il y a des enseignements qu'on peut tirer de ces statistiques? Parce que ça ne reste que des statistiques.
Alors, je vois tout sourire, et vous imaginez sans doute que je vous annonçais la progression du CAC 40 au mois de décembre.
Ah, j'espère bien.
Bien sûr que non. Donc, au revenu, on ne lit pas dans la boule de cristal. Alors, ce qui est sûr, c'est que, alors, d'une façon générale, il faut quand même se méfier un petit peu du market timing. Au revenu, on recommande plutôt le buy and hold. Donc, vous achetez vos titres, vous les conservez des années. Vous pouvez faire un peu du market timing, c'est-à-dire consiste à essayer d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut. Bon, sur 10, 20, 30% de votre portefeuille. Ce qui est sûr, c'est qu'au revenu, on a revu un tout petit peu notre allocation d'actifs. On a renforcé un petit peu, il y a quelques semaines, les États-Unis. On est monté à 40%. Bon, on peut être patriote tout en investissant à l'étranger. On a baissé un peu le poids des actions européennes à 20%. Actions françaises, on est à 25%, 10% d'actions émergentes et 5% d'actions japonaises. Donc, vous voyez, on reste dans une allocation d'actifs assez diversifiée. Les marchés ont déjà bien rebondi, hein, quelques 20% je pense pour le CAC 40. De toute façon, que vous décidiez de vous renforcer un petit peu maintenant ou un petit peu en janvier, faites-le pour le long terme. Puis je vous propose de donner rendez-vous dans quelques semaines pour là, je dirais, passer en revue une autre croyance boursière.
Une fois que les jeux seront faits, quoi.
Une fois que les jeux seront faits, pour aborder une autre temporalité, c'est-à-dire la croyance boursière qui vient après le rallye de fin d'année, c'est les premières séances de l'année. Donne-t-elle le là pour l'ensemble de l'année boursière, on verra ça.
La première journée, la première semaine, le premier mois.
Voilà, c'est ça, pas grave.
Stéphane, vous avez un regard, vous, sur ce rallye boursier? C'est vrai, quand je le rappelle, quoi, 20% en tout cas pour le CAC, là, pris en un mois et demi, deux mois.
Ouais, ça fait un très gros rallye, mon cher Cédric. Les rallyes boursiers, ou en tout cas ces phénomènes qu'on essayait de rendre un petit peu métaphysiques, je vais jusque-là, et que Christian a essayé de bien développer en essayant de les statistifier. Ça va être un mot difficile à dire. Je me méfie toujours, parce que moi j'ai appris mon métier il y a une vingtaine d'années. On nous expliquait qu'il fallait faire attention quand il y avait des ponts au mois de mai. Est-ce que Noël et Jour de l'An tombaient un vendredi pour que ce soit des jours à rallonge avec l'absence finalement des gérants et des analystes qui pouvaient avoir tel et tel effet 15 jours avant. On parle aussi des bonus. Donc je suis très méfiant là-dessus. Donc je n'irai pas sur ce terrain-là.
Voilà donc, poser votre ouais, limite, entre guillemets, voilà, s'il fallait quantifier le truc. Question que vous envoie Arnaud. Il a lancé l'acquisition d'un bien avec un Pinel, et il constate que le dossier tarde au niveau de la banque, et il a peur que du coup tout ce dossier finisse par être un petit peu short pour passer chez le notaire avant la fin de l'année. Et il voudrait votre avis.
Eh bien, évidemment, Arnaud, c'est un gros sujet. Hein. Chez Net Investissement, on a quand même beaucoup de clients qui nous sollicitent pour ce type de projet. Et on était habitués, en général, en fin d'année, à ne traiter que les projets en principe de la loi Malraux, où il faut acter en fin d'année une partie de travaux pour avoir une réduction d'impôts. Là, la petite spécificité 2022, c'est que cette fameuse loi Pinel, qui est là depuis 2015, hein, qui en fait une des lois les plus longues, finalement, de l'histoire des lois de défiscalisation, va changer en 2023 avec l'arrivée de l'obligation de respecter la norme RE 2020, avec maintenant des métrages carrés obligatoires, des appartements transversaux, une double exposition. Enfin, beaucoup de contraintes énergétiques qui vont dans le bon sens, mais qui vont obliger finalement le propriétaire à acter, devenir propriétaire devant notaire d'un bien avant le 31 décembre. Sinon, son avantage fiscal serait dégradé. Ou alors, il faut carrément qu'il change de bien et qui partent, donc, comme je le disais, sur un Pinel Plus avec ses appartements RE 2020. Donc, mon cher Arnaud, ben, faites attention, parce que, ben, évidemment, nous sommes le 28 novembre. Si vous n'avez pas votre offre de prêt aujourd'hui avec les délais légaux de rétractation, puis, j'ai envie de dire, le couloir d'étranglement qu'il y aura chez nos amis notaires, ça va être compliqué d'acter. Donc, votre risque, c'est de rester en Pinel classique qui sera donc dégradé l'année prochaine avec une réduction d'impôt inférieure à celle prévue parce que vous n'aurez pas accès. Alors, attention, parce qu'évidemment, je ne suis pas venu les mains vides. Je suis obligé de le dire avec des pincettes. Ça a été annoncé la semaine dernière, évidemment, avec grand fracas. Plusieurs associations, dont l'AFIL, qui est l'Association française des investisseurs locatifs, ont déposé un amendement 78. Enfin, un sénateur sous l'influence de ces associations a déposé un amendement 78, prorogeant potentiellement jusqu'au 31 mars la possibilité pour Arnaud d'acter son bien. Mais attention, parce que là, tout le monde se réjouit beaucoup là, depuis quelques jours. Il faut attendre, vous savez, les allers-retours de lecture législative en France. Ouais, donc, on a encore une petite quinzaine de jours. Il faut pas s'enflammer, pardonnez-moi du terme, mais vraiment, parce que là, j'ai vu sur la toile des confrères qui relancent. Donc, Arnaud, ne lâchez pas la pression sur votre banquier. Mais vous pourriez avoir une bonne nouvelle d'ici 15 jours. Ça veut dire que ça vous donnera un peu plus de souffle pour acter avant le 31 ouais. mars. Maintenant,
c'est encore une minute, monsieur le bourreau, quoi.
Ouais, voilà. Oui, mais trois mois, c'est quand même pas rien. Là, on a eu beaucoup de dossiers. Nous, chez Net Investissement, on avait clairement freiné toute réservation Pinel depuis grosso modo le début du mois de novembre parce qu'on n'était pas sûr de pouvoir aller au bout. Ouais. Là, tous les clients qui se posaient la question et qui avaient déjà choisi un bien, hein, qui étaient déjà sur un bien avec RT 2012 et non pas RE 2020, qui sont les normes énergétiques déclenchant ou pas la dégradation de votre réduction d'impôt, tous ces clients, bah, évidemment, ils sont relancés et ils ont envie d'y aller pour pas se compliquer la vie parce que le stock des biens immobiliers qui seraient éligibles au Pinel Plus, qui maintiendraient les mêmes réductions d'impôts, mais avec le respect des normes énergétiques 2020, est très faible pour l'instant, mon cher Cédric. Donc, même si vous vouliez basculer, vous ne trouveriez pas forcément le produit. Ce qui m'amène à rappeler à Arnaud quand même, parce que vous le savez, je le fais régulièrement, et je sais que Christian sera d'accord, l'alpha et l'oméga d'un achat immobilier n'étant pas la défiscalisation, n'oubliez pas que si vous faites un dispositif Pinel et que vous avez un très bon bien qui est bien, avec un bon emplacement, un bon potentiel locatif et surtout un bon rendement locatif initial hors des fiscalisations, c'est pas grave si vous basculez en Pinel dégradé. Ne vous obligez pas à basculer sur un lot RE 2020 qui sera forcément plus cher parce qu'il aura des normes à respecter plus lourdes. Et au final, votre rendement interne au bout de 10-12 ans serait exactement le même. Donc la base de tout reste quand même la cohérence de l'opération immobilière avant la carotte fiscale supplémentaire.
Voilà donc quelques idées à avoir en tête. Question de Xavier à présent. Comment me former à la finance, Christian ?
Alors c'est une bonne question et on en débat souvent. C'est vrai que en France cette matière n'est pas enseignée, hein, l'art de gérer le budget d'une famille ou l'art de bien placer, à moins de faire des études.
Je dirais, il a le revenu et BFM
des études en gestion de patrimoine. Alors ça on va y revenir au fait directement la pub, mais sans les amuse-bouches au préalable, sans commencer.
À la
vous en avez pas sur les amuse-bouches, mais vous avez deux façons de vous former. Soit vous faites des études en gestion de patrimoine, mais bon ça. C'est une chose. Sinon, vous apprenez la gestion, l'art de bien gérer son patrimoine en famille. Et si ce n'a pas été le cas, parce qu'il n'y avait pas cette tradition, ce savoir-faire, donc alors c'est dans votre famille, bah, vous avez effectivement la presse, donc alors et vos émissions préférées. Il faut appeler un chat un chat, il faut parler vrai, il faut quand même y consacrer en tout cas au début quelques heures par semaine pour acquérir les bons réflexes, hein, la juste place des investissements de défiscalisation, on en parlait juste là, anticiper ses besoins futurs, éviter les bulles spéculatives, acheter ce qui n'est pas cher. Tout ça, c'est des conseils de mon sens qui sont assez faciles à, je dirais, à intégrer, quoique, mais à appliquer, c'est souvent une autre paire de manches. En lisant régulièrement la presse et en écoutant vos émissions préférées, Xavier, vous allez très vite apprendre que c'est vrai que là, bien gérer son patrimoine, ben c'est de la technique, bien sûr. C'est sans doute de plus en plus de technique, mais c'est aussi et surtout beaucoup de bon sens. Et que, en placement, on gagne beaucoup d'argent déjà en évitant d'en perdre. Et que c'est particulièrement vrai, d'ailleurs, dans des années comme celle-ci, chahutée en bourse. bourse, les vrais cadors en bourse, c'est pas ceux qui gagnent 22-23% quand l'indice gagne 20%. Les vrais cadors, c'est ceux qui réussissent à être à l'équilibre alors que les marchés sont à moins 5 ou moins 10. Et ça, c'est les mathématiques qui vous enseigneront que avec les années, eh ben, ils seront largement gagnants. Voilà. Et donc, comment se former en finance? Xavier, je me souviens vaguement de votre mail, mais il me semble que vous étiez ingénieur de formation. Et donc, évidemment, là, vous êtes déjà un peu avantagé puisque vous avez un petit bagage,
un petit bagage de maths.
Vous avez un bagage en maths et que savoir calculer un taux de rendement, c'est nécessaire, tout simplement, pour faire progresser son patrimoine.
Et puis, pour faire un peu de pédagogie, il y a aussi nos petits camarades de la Finance pour tous. Et à l'occasion, tiens, de cette question, je vous annonce qu'il y a quelque chose que j'aime bien, c'est leur grand prix chaque année. C'est la 9e édition qui récompensera les meilleures productions pédagogiques faites par des étudiants, tous ceux qui aiment manier le crayon, la tablette, la caméra, enfin bref. Le thème sur lequel vous devez vous pencher cette année, c'est « Peut-on se réjouir de retour de l'inflation ?» Donc voilà le grand prix de la Finance pour tous 2023. C'est une initiative que j'aime beaucoup parce que il y a beaucoup de productions pédago à la Finance pour tous quand on s'intéresse aux choses de l'économie et de la finance. Question que vous envoie Anaïs. Stéphane, elle envisage d'investir un capital en part de SCPI, mais devant son investissement, elle hésite. Soit elle se concentre sur une seule SCPI, ou bien elle diversifie. Qu'est-ce que vous lui recommandez de faire?
Naturellement, je comprends son interrogation, parce que on le rencontre très souvent, figurez-vous, Cédric, parce qu'en fait, les clients investisseurs de SCPI ne connaissant pas forcément tant que ça ce marché de cette classe d'actifs pourtant très porteuse et très prisée en France, ils ont tendance à s'intéresser à un secteur ou à une maison de gestion qui s'occupe de SCPI et à tout concentrer. Et évidemment, personne ne peut dire le contraire que, ma chère Anaïs, il faut faire le contraire. Il faut évidemment diversifier. Investir dans des SCPI doit avoir comme raisonnement de base la même chose que quand vous faites une allocation d'actifs en compte-titres, en assurance-vie ou en PEA. Il faut multiplier les secteurs géographiques, les secteurs d'activité, les tailles de SCPI, etc. pour avoir finalement exactement, comme pour un portefeuille financier, un portefeuille de pierre-papier, puisque la SCPI, on appelle ça la pierre-papier. L'objectif étant d'essayer de finalement cumuler les avantages de chacun. Donc pour pas que Anaïs reste sur cette vision très théorique, je vais vous donner, alors là c'est très convictionnel ce que je dis, parce qu'il n'y a pas de statistiques ni de mathématiques pour reprendre l'exemple de Xavier avant. Vous pouvez vous former, vous informer. Là je vous donne la sélection net investissement pour 2023. Je vous donne pas les 10 SCPI qu'on privilégie, mais un petit portefeuille pour Anaïs qui serait bien pour démarrer si elle ne connaît pas cette classe d'actifs. Vous commencez évidemment par mettre un fonds de portefeuille sur deux grosses SCPI. La première, c'est Primovie, qui est la première SCPI du marché investi dans la thématique de la santé et de la petite enfance. Tout le monde la connaît. Cette SCPI a énormément pris d'ampleur ces dernières années. Elle fait 4 milliards d'actifs aujourd'hui et elle profite en gros des évolutions démographiques françaises et notamment du dynamisme de la natalité, le vieillissement de la population, etc. Enfin, je vous passe les détails, ma chère Anaïs, mais là, on est sur un bon fonds de portefeuille, comme on le dit. Ensuite, on prend PFO2 de Périal. C'est l'ambassadrice des SCPI vertes. Je vous fais pas le détail, vous avez compris pourquoi. Depuis 2009, c'était la première SCPI spécialisée sur les critères ESG. Donc, évidemment, aujourd'hui, avec le label ISR, et Périal étant extrêmement en avance, y compris dans son intégration au marché, puisqu'il propose, cette gestion propose souvent des formations sur ce sujet. Donc, on met un peu de vert également dans son portefeuille Anaïs. Et ensuite, on prend deux autres SCPI de taille plus petite, mais qui vont chercher des spécialités. La première, c'est Crystal Rand d'Intergestion, qui est la SCPI du commerce, des grands commerces, des commerces de proximité. C'est une SCPI qui a très bien traversé la période des confinements, puisqu'elle est sur les besoins, j'ai envie de dire, du quotidien, le commerce de bouche. Donc, elle n'a pas eu du tout de problème pendant toute cette période-là, avec des murs de Burger King, de Jardiland, de choses comme ça. Donc, on fonce sur Crystal Rand. Et enfin, on finit pour la petite pointe fiscale. Rapidement. Sur Cœur d'Europe de Sogénial, pardonnez-moi, je suis un peu long. C'est une SCPI 100% Europe qui investit en Belgique, au Portugal et en Espagne et qui donc vous offre la possibilité de bénéficier d'une fiscalité très attractive. Donc en faisant ça, Anaïs, vous avez une diversification et une complémentarité parfaite pour démarrer.
Merci
pour le temps, mais c'était précieux.
Beaucoup à tous les deux. Christian Fontaine, Le Revenu, Stéphane Van Uffel, Net Investissement dans un instant. C'est Sandra Gandoin et 60 Minutes Business. Bonjour Sandra.
Bonjour Cédric, je vais me dépêcher. On va parler beaucoup de la Chine.
Mille excuses.
Les autorités chinoises qui assurent que leur combat contre le Covid sera une réussite. On verra bien ce qu'en pense Jean-François Di Meglio qui sera avec nous dans le Focus et avec Sébastien Lebelzig qui est sur place, qui va nous parler des dernières manifestations. Et puis on parlera du retour des Halles Gourmandes. C'est Romain Alaman, le directeur de Biltoki, qui sera avec nous. Puis à 12h30, on répondra aux questions des auditeurs téléspectateurs. C'est dans quelques minutes.
0,84% de baisse sur l'indice CAC à 6656 points. Et nous, on se retrouve demain à 10h. Très bonne journée.